Des mots d'origine étrangère avec vous, André Lacombe, et vous commencez avec quelques mots d'origine française.
Deux mots apparentés, en fait, nip et reniper. Nip, on l'utilise très peu au Québec, hein? C'est rare qu'on entend ça. C'est un mot issu de l'ancien français « guenip ».
Ah.
Ça désignait l'ensemble des vêtements ou des effets d'une personne. Mais aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour parler de vêtements usés, défraîchés. Vous savez, ceux qu'on garde dans le fond du garde-robe en se disant qu'on pourrait toujours les mettre pour faire de la peinture, mm-hmm. Là, puis finalement, on s'en sert jamais. Là.
Nous, on dit guenille. On dit pas guenille, on dit guenille.
Guenille. C'est vrai, je parle trop bien. Guenille. Alors, au Québec, ben, on est davantage familier avec reniper,
oui.
Qui nous vient du picard, langue régionale du nord de la France. Ça voulait dire, à l'origine, changer de vêtements, reniper. Mais au Québec, le sens a évolué, puis peut signifier trois choses, en fait. Réparer ou rafistoler quelque chose, plus souvent un objet. Restaurer ou rénover une maison, une voiture. Dans ce cas-ci, on dit souvent « revamper » aussi, hein, ce qui est un anglicisme de « to revamp
mm-hmm. ».
Et enfin, « se reniper », ça, on l'entend plus rarement, dans le cas d'une personne qui fait sa toilette ou qui modifie au mieux son apparence physique. Maganer.
On va se reniper quand on est magané.
On va se reniper quand on est magané, hein, c'est ça. Ah, y a tout est dans tout.
Oui, on dirait.
Verbe dérivé de l'ancien français « maigner », qui voulait dire « mutiler » ou « blesser ». Relativement proche du sens actuel, mm-hmm. hein, qui veut dire soit abîmé ou endommagé, magané quelque chose, un objet. Je pense qu'on emploie cependant davantage l'adjectif magané, qui décrit quelque chose ou quelqu'un en mauvais état, comme un lendemain de veille, par mm-hmm. exemple, n'est-ce pas? T'es pas mal magané à matin. Autre mot, enfin, bien de chez nous, bébelle.
Oui, Père Noël.
Bébelle, puis dans ta cour. En français du 13e siècle, on disait bobelle ou babelle. Pour désigner un petit cadeau. Alors qu'aujourd'hui, bébelle, ben, ça identifie soit un jouet, un objet sans valeur, un gadget.
Mm-hmm. Ça, je disais Père Noël, genre. Je
Père
pensais
Noël,
à la chanson.
Père Noël apporte des bébelles.
J'en ai eu, j'en veux plus.
On va arrêter la suite.
Alors, André, vous poursuivez avec quelques mots d'origine diverse.
On débute avec le magasin, issu de l'arabe mahazin. Excusez ma prononciation arabe, pas très au point. Ça veut dire entrepôt, dépôt, lieu de stockage à l'origine, mais c'est un sens qui existe toujours pour magasin. Le mot, lui, est apparu en français au 14e siècle sous la forme magasin, et c'était fidèle à l'esprit d'origine.
Viens-tu magasiner?
Magasiner. Je pense pas que les gens magasinaient beaucoup à l'époque, parce que d'ailleurs, le sens de boutique, pour dire magasin, ça, c'est apparu seulement au 17e siècle. Et tant qu'à être au magasin, on va poursuivre avec le mascara. Hein? On s'achetait du mascara. Mot qui trouverait ses origines dans l'espagnol mascara ou l'italien mascara.
On n'est pas sûr.
C'est pas clair. C'est comme c'est souvent le cas en linguistique, là, parce qu'il y a tellement de recoupages. Les deux peuvent vouloir dire, en fait, masque ou tache. Hein? Et le terme apparu en français au 19e siècle pour désigner le fameux fard à cils. Voulait justement traduire ce côté un peu d'un masque avec un regard mystérieux ou sombre. C'est pas pour rien qu'on appelait ça du mascara.
C'est joli, fard à cils.
Fard à cils, oui, c'est comme ça.
Je mets mon fard à cils, je me renipe et j'arrive.
Tout est dans tout, Hélène, je vous le dis. Le mot a d'abord été popularisé en anglais sous la forme mascaro.
Ah.
Et l'appellation française serait d'ailleurs un dérivé de l'anglais. Donc, on serait passé de l'espagnol, italien,
wow.
À l'anglais et ensuite au français.
Toute une histoire.
Toute une histoire. Autre hypothèse, cependant, qui circule, selon certaines sources, suggérant que le terme pourrait être associé à la ville de Mascara, en Algérie, où les Français auraient découvert l'usage de l'antimoine pour les cils. L'antimoine, c'est une poudre noire au 19e siècle. Et vous avez peut-être aussi déjà entendu le mot « rimmel mm-hmm. » comme synonyme de mascara.
Ça fait très star.
Ça fait très star. Où t'as mis ton rimmel? S'il s'agit de ce qu'on appelle en linguistique un antonomase, lorsqu'une marque engendre un mot dans le langage populaire.
Ah, c'est
comme
une marque!
Un Kleenex,
oui,
un Skidoo.
Oui.
Rimmel, ça nous vient d'Eugène Rimmel, qui a commercialisé, popularisé le premier mascara cosmétique au 19e siècle en utilisant son nom.
Et comment on apprend des choses grâce à vous! Et c'est drôle hein, que mascara peut signifier aussi tache, parce que ça peut tacher. Hein?
Absolument.
Ouais. Le mascara qui coule là, quand on pleure.
Absolument.
même quand...
Oui, mais achetez-vous-en du bon, achetez-vous-en du bon, puis il coulera
ouais,
pas.
Oui, mais bon, pas bon, ça peut couler. À moins qu'il soit waterproof en bon français.
Ah, voilà.
Bon, une jupe maintenant.
Une jupe, toujours dans le magasin. Une jupe maintenant, mot qui trouve son origine, encore là dans l'arabe, djouba, désignant soit une veste ou une robe. C'est drôle, hein, le
une
même
veste.
Mot. Oui, une veste. Mais ce sont des vêtements d'hommes et non de femmes dans ce cas-ci. Au Moyen Âge, le mot arabe est d'abord passé à l'italien sous la forme djouba, puis au français, mais ça identifiait à l'époque ce qu'on appelait un pourpoint. C'était une sorte de veste masculine courte, ajustée, souvent matelassée, qu'on portait sous l'armure comme protection contre les blessures. Un pourpoint. Et c'est juste beaucoup plus tard, au 17e siècle, que le sens actuel du mot jupe est apparu pour désigner le vêtement d'abord féminin, mais masculin par la suite avec le kilt et autres.
C'est loin d'être une veste, là. Si tu mets ta jupe comme une veste,
c'est ça qui est étrange
problème.
Des fois. Ouais. Puis on comprend mal parfois l'évolution des mots, mais toujours est-il que c'est ce qui est arrivé. L'adjectif kitsch, maintenant, apparu vers la fin du 19e siècle en Bavière, région du sud de l'Allemagne, pour désigner des objets d'art de mauvais goût, bon marché, produits en série. Vous voyez, on est vraiment dans le péjoratif. Ça aurait été utilisé par les marchands d'art pour critiquer les imitations médiocres et les bibelots destinés à la bourgeoisie. Ces riches parvenus, n'est-ce pas? Contrairement aux aristocrates qui, eux, étaient des gens de famille riche. Alors, vous voyez, tout le snobisme derrière
oui.
ça.
Ah oui.
Le mot serait dérivé d'ailleurs du verbe allemand « kitchen ». C'est ça, « kitchen », mais pas « kitchen » au sens de cuisine.
Non, non.
S-C-H-E-N. Pour décrire l'action de ramasser des déchets dans la rue. Hein? Ça, on est toujours dans un sens péjoratif.
Méprisant, même.
Méprisant. Au 20e siècle, le sens du mot s'est élargi pour décrire soit une forme de culture de masse ou de design tape à l'œil. Là, on est proche de ce qu'on dit au Québec comme étant le kétan, qui est synonyme de kitsch. Kétan, je le rappelle, selon une hypothèse maintes fois répétée, ça ne viendrait d'une famille défavorisée ayant vécu à Saint-Hyacinthe, les Keating.
Ça ressemble à une légende urbaine.
Dans les années 40. Ça. Oui, mais elle est tellement véhiculée.
Les Keating.
Il y a deux hypothèses. Je vous dis la deuxième. Autre hypothèse, donc, sur l'origine du mot, voulant que ce soit dérivé de quêteux ou quêteur, qui, en vieux français, se disait soit quêtant ou catin, mais Q-U-A-T-A-I-N. Et là, vous voyez que phonétiquement, on est très proche de quétaine. Mm-hmm.
C'est un
alors,
beau mot,
c'est
hein?
les deux hypothèses qui existent.
Et qui est quétaine.
Et voilà.
On n'aime pas ça, se faire traiter de quétaine.
Et non, qu'on n'aime pas ça.
Le wagon, dis-tu wagon ou wagon?
Wagon, mais c'est emprunté à l'anglais wagon, donc au début du 19e siècle. Et ça nous vient du néerlandais wagen, avec un E au lieu d'un O. Ça désignait à l'origine un chariot à quatre roues pour charge lourde. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cet usage-là a été incorporé dans le français parlé au Québec et ailleurs au Canada. Alors, selon le dictionnaire des canadianismes, aux éditions Septentrion, pour ne pas le nommer, « wagon », O-U-A-G-U-I-N-E.
Mm-hmm. On avait des wagons chez nous.
Prononcé
là.
Phonétiquement. Ça réfère justement à une voiture à quatre roues tirée par des chevaux puis qui servait au transport des personnes et des marchandises. Moi, j'avais déjà entendu mes grands-parents dire « mets ça dans wagon » et
ben
je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et bon. C'est de là que ça vient.
Wagon, moi, je l'ai entendu toute ma vie parce que je suis née sur une ferme, comme vous le saviez peut-être.
Oui, tout
à fait. Et la wagon, on l'accrochait après le tracteur.
Exactement.
Des fois, la wagon, il y avait un pneu qui était dégonflé.
Qui était flat.
Qui était flat, oui.
Si on revient au sens ferroviaire du mot wagon, c'est apparu, ça, en 1826 avec la naissance des chemins de fer.
On passe à la bouffe.
La bouffe, avec le pastrami.
Ah, ça, je suis contente parce que je suis toujours mêlée. Le pastrami, le smoked meat, est-ce que c'est la même chose?
Je vous dis tout ça, tous les secrets.
Okay.
Charcuterie d'origine new-yorkaise, le pastrami à base de bœuf saumuré et fumé, servi chaud, bien sûr. À la différence du smoked meat montréalais, qui, lui, est d'abord affiné à sec, c'est-à-dire salé et séché à l'air libre, parfois un peu mariné par la suite et confectionné uniquement avec la poitrine de bœuf. On dit aussi le brisket, terme anglais, ce qui n'est pas le cas du pastrami. Et pourquoi pastrami? Mais ça tire son origine du roumain pastrama pour désigner une viande conservée. Et pour continuer sur la petite histoire du pastrama ou pastrami, c'est une tradition, ça, de viande séchée fumée qui a été apportée aux États-Unis et au Canada par des immigrants juifs roumains, justement. donc le Roumain, a traversé grâce aux Juifs à la fin du 19e siècle, d'où le pastrami new-yorkais et le smoked meat montréalais. C'est eux qui nous ont apporté ça. Et l'un des pionniers de notre réputé smoked meat, c'est le célèbre Reuben Schwartz.
Ah, il s'appelle Reuben Schwartz?
Oui,
qui a ouvert son... le Reuben qui existe et le Schwartz. Schwartz.
Qui a ouvert son restaurant Schwartz sur Saint-Laurent en 1928. Toujours en activité, d'ailleurs,
ah, je le rappelle. Toujours plein. Toujours plein. Ouais.
Et tant qu'à parler de bouffe, on termine avec le tofu.
Après avoir mangé un smoked meat, demain, je vais manger du tofu.
Oui, ça va être plus santé, on va me racheter. Mot issu du japonais tofu, lui-même emprunté au chinois doufu. Parce que le tofu, Hélène, ça a vu le jour en Chine il y a plus de 2000 ans.
C'est pas d'hier.
Étant en caractère chinois que japonais, ça se compose, ce mot-là, de deux caractères. D'une part, le premier pour fève de soja et l'autre caractère pour mou, caillé ou fermenté. C'est le même caractère, figurez-vous, pour les trois. Donc, littéralement, le tofu, c'est un caillé de fèves de soja. Et c'est d'ailleurs pourquoi on réfère encore parfois au tofu comme étant du fromage de soja. Et le mot est apparu dans une langue européenne, dans un dictionnaire portugais-japonais, en 1603.
Le tofu.
Le tofu.
Quand on sait l'apprêter, ça peut être vraiment très bon.
Tout à fait.
André, c'est ici qu'on se dit au revoir.
Au revoir.
Mais pas adieu, même si on va s'ennuyer de vous. Là. Vous allez être de retour à la
fin avril.
À la fin avril.
Je pars en voyage et j'aurai des choses à vous raconter.
Bien, certainement.
Retour.
Alors, passez du bon temps.
Merci.
Où que vous soyez. Puis, on va se retrouver en espérant que le printemps soit vraiment bien installé.
On va l'espérer.
En principe, il arrive le vendredi à 10h45.
Voilà.
Pas en principe.
On va espérer qu'il est au rendez-vous.
Oui, le vrai printemps.
Le vrai.
Avec du beau soleil.
À bientôt. Au revoir.